Je veux dire, moi, je suis dans le BTP. J'ai 5 entreprises qui ont toutes à peu près une vingtaine de salariés. Donc, chaque entreprise est une petite entreprise. Et quand on a 20 collaborateurs, on est très proche de nos salariés. Et il n'y a pas beaucoup d'encadrement. Donc, c'est beaucoup d'ouvriers. Et ces ouvriers se posent beaucoup de questions. Parce que pour eux, quand ils vont être prélevés de 100 euros par mois pour leur impôt ou 200 euros par mois, c'est beaucoup d'argent. Et du coup, ils ont beaucoup de mal à arriver à s'adapter à cette nouvelle vie avec moins d'argent tous les mois. Et donc ça va générer des problématiques sociales assez importantes. Donc ça, c'est le premier problème. Et puis après, il faut changer les logiciels de comptabilité, les logiciels de paye. Et quand on est une PME, une petite entreprise, en 3 mois, c'est très difficile. Donc clairement, c'est une mauvaise nouvelle que le prélèvement à la source soit si rapide, mis en place à partir du 1er janvier.
Vous allez aider les entreprises adhérentes ?
Alors effectivement, à l'UPE 13, nous, notre boulot, c'est de faciliter la vie des entrepreneurs et d'offrir des services. Donc on est en train, on a déjà travaillé, mais on s'adapte pour que très vite, on puisse mettre à disposition des entrepreneurs des formations ou les aider à choisir les logiciels comptables, les aider à travailler avec leur expert comptable pour sécuriser les informations, parce qu'on va avoir des informations très personnelles de nos collaborateurs et il ne faut pas que ces informations fuitent. Et nous, dans nos boîtes, on n'est pas adapté pour sécuriser ces informations.
Autre nouveauté, vous lancez une consultation sur les industries de l'étang de Berre. Qu'est-ce qui va se passer ?
On est arrivé dans une situation d'extrême urgence. Si on n'a pas recours à la concertation et au dialogue, on peut courir à la catastrophe. Et quand je parle de catastrophe, je parle de catastrophe économique, bien évidemment, mais aussi de catastrophe sanitaire, parce qu'on peut très bien passer à côté de quelque chose. Donc, l'objectif de cette concertation que j'ai poussée, j'ai demandé au GMIF, qui est le groupement des industriels de Fos, qui a poussé cette initiative et qui a accepté le principe de la concertation, on va travailler avec les pouvoirs publics, les associations, les ONG, les citoyens, les élus locaux et le monde économique, pour travailler ensemble, pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut qu'on change, comment améliorer les choses sur le pourtour de l'étang de Berre, pour qu'on ne choisisse pas entre la santé et l'emploi, mais qu'on choisisse la santé et l'emploi. Ça commence dans les semaines qui arrivent, ça va prendre un certain temps, parce que ce type de concertation, ça ne se fait pas en quelques jours, donc ça va prendre plusieurs mois. Mais en attendant, je suis très content et très confiant de cette concertation, parce que vous savez, quand les gens sont en face l'un des autres, qui se connaissent, qui apprennent à se respecter, à se faire confiance, quand ils voient que l'un a dit quelque chose et que c'est la vérité, derrière, on peut travailler ensemble plus facilement.
Et les études épidémiologiques, elles peuvent pas mettre tout le monde d'accord ?
Des études, il y en a toute une série. Moi, je ne suis pas compétent pour analyser la véracité, l'exactitude, etc. Là, il va y avoir un outil indépendant, co-géré par et le monde économique, et les associations, et les politiques. Ces études seront donc impartiales, ce qu'on peut peut-être se poser la question pour celles qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, les prochaines, elles seront impartiales. Et donc, le jugement de ces études va avoir une valeur qui, pour l'instant, n'était pas au niveau de ce qu'on espérait.
Depuis mars, vous accompagnez des jeunes pour des créations d'entreprises. Ça s'appelle The Choice. Un bilan ?
Un bilan merveilleux. C'est-à-dire une manifestation faite de beaucoup de joie, beaucoup de réussite, beaucoup d'entraide, une cohésion entre les jeunes, une cohésion avec les coachs, une cohésion avec les équipes de l'UP, que, honnêtement, beaucoup de positif. Personne n'a perdu, finalement, parce que tout le monde a été accompagné. Une envie de ces jeunes de s'en sortir qui m'a, moi, bluffé, et de voir que dans les yeux de ces jeunes, toute la reconnaissance qu'ils ont eue vers leur coach et toute l'envie qu'ils ont de se sortir de leur quotidien et de devenir entrepreneur, ça me rend vraiment très, très, très fier.
Vous avez sélectionné vraiment des activités très variées.
C'était le cadre de The Choice, hein, nos limites. On a pris toutes les idées. Alors, il y en a qui sont viables plus que d'autres, à court terme, à moyen terme, mais on a tout pris. L'école de majorette, celui qui veut faire coutelier, l'autre qui veut être... Enfin, on a vu des transports propres, du marketing, des sacs, on a tout vu. C'était juste merveilleux. Et donc, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'on n'a pas coupé l'imagination et l'innovation de ces jeunes. Et finalement, on se rend compte qu'avec l'expérience, eh bien, on se bride un peu nous-mêmes. Et les coachs ont tiré autant de bénéfices que les jeunes. Et c'est ça qui est merveilleux.
Alors, The Choice peut devenir national, ouais. Une grande fierté pour vous qui êtes quand même attaché au territoire. Vous parlez de Marseille comme le deuxième moteur économique de la France.
Alors, une fierté, oui. Vous savez, Manifestement, The Choice est une bonne idée, puisque ça a eu beaucoup d'écho, les jeunes se sont mobilisés, les coachs aussi, donc on est tombé juste de quelque chose de positif. Si on pouvait le dupliquer à l'échelle nationale, on en serait très fiers, mais sans en revendiquer le co-branding, forcément. Mais en attendant, si nous, à Marseille ou dans la métropole, on arrive à avoir 100 jeunes, et que si c'est démultiplié dans toutes les métropoles de France et qu'on arrive à faire 1000 jeunes ou 1500 jeunes par an, c'est merveilleux. Donc, bien évidemment qu'on sera favorable à ça. Après, il faut que l'esprit de The Choice soit conservé, c'est-à-dire que ce n'est pas une opération de communication. On s'occupe vraiment des jeunes et on le fait sincèrement. Voilà. Si c'est pour faire une émission de télé où on va faire venir des acteurs, ça ne nous intéresse pas. Mais par contre, si on va vraiment dans les cités, si on va vraiment voir les jeunes qui n'ont pas de formation et si on les accompagne vraiment, alors là, on le démultipliera avec grand plaisir.
Alors comment justement porter cette ambition pour Marseille, deuxième moteur économique de la France ?
Je vais vous dire, pour qu'on arrive à exploiter pleinement le potentiel que nous avons, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que le monde politique, le monde économique, le monde académique, aidé par l'État français, travaille de concert avec le même objectif. Et ça, vous savez très bien qu'il y a des échéances électorales qui arrivent dans un an et demi, que ces échéances vont grandement impacter ce qui va se passer dans l'avenir. Donc c'est vrai qu'on est dans une période qui n'est pas très propice au démarrage immédiat de ce que j'espère pour le territoire. Il y a quand même une volonté des partenaires institutionnels. Quand on parle de la mairie, de la métropole, de la région, on sent qu'ils ont quand même la même volonté que nous de réussir. Le monde économique est plutôt aligné aussi, donc de ce sujet-là, il n'y a pas de sujet. Vous voyez que nous sommes avec Edge, nous sommes avec l'AMU. Tout le monde a la même envie. Maintenant, il faut qu'on arrive à travailler plus efficacement tous ensemble, parce qu'aujourd'hui, on arrive à signer des accords bilatéraux avec les uns et les autres, mais il n'y a pas d'accord collectif. Et je pense que le secret de notre réussite, c'est quand on arrivera à faire un accord global, commun, collectif. Et un des préambules à ça, c'est le comité de gouvernance économique, où on arrive à l'échelle métropolitaine à être tous autour de la table. Maintenant, il faut qu'il soit efficace et il faut que ça soit aussi le dernier maillon à ne pas oublier, c'est que l'économie est impactée, bien évidemment, parce que la région a la compétence économique avec la métropole et on ne pourra pas prendre de décision métropolitaine si on n'a pas aussi l'adhésion de la région, puisque ça doit se faire de concert.
Alors justement, dernière question, est-ce que la démission de Jean-Claude Gaudin est... L'envol possible de Martine Vassal, ça vous avantage ? Ça vous donne vraiment ce sentiment que vous pourrez enfin, justement, vous unir ?
Alors écoutez, je ne pense pas que Jean-Claude Gaudin ait été une des raisons pour lesquelles on ne se soit pas unis, pas du tout. Moi, ce que je veux dire que s'il n'y avait pas eu Jean-Claude Gaudin, il n'y aurait pas eu de métropole. Donc il a été, au moment où s'est construite la métropole, il a été la seule personne qui était capable de mettre d'accord tout le monde et de faire la métropole. Donc rien que pour ça, chapeau bas. Qu'il ait l'élégance, l'intelligence, après avoir fait le job, après avoir porté pendant 2 ans la métropole, de passer la main à sa première vice-présidente, qui est présidente du conseil départemental, alors qu'on voit bien que la métropole et le département doivent fusionner très prochainement, je pense que c'est une sage décision. Et je suis certain que Martine Vassal, la présidente, qui a été en plus entrepreneur dans sa vie, chef d'entreprise, qui connaît bien nos préoccupations, va être une personne particulièrement bien adaptée pour mener les mesures nécessaires pour l'attractivité économique de notre territoire.